C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur de nombreux peintres, écrivains, musiciens, décorateurs, couturiers de la Restauration. Œuvre et personnage du tableau représentant Mazeppa à Frédéric Moreau de l'éducation sentimentale, en passant par les petits patriotes de Philippe-Auguste Genron, de très nombreux tableaux, romans, poèmes, morceaux de musique, définissant ce qu'a pu être, de 1814 à 1848, le personnage de cette semaine, le héros romantique. La Restauration a duré de 1814 à 1848. Il est la plupart du temps inexact de faire coïncider les périodes artistiques avec les périodes historiques, mais dans le cas du romantisme, on peut le faire car il a été nourri de politique. Dans un des livres essentiels de ce mouvement, « Les confessions d'un enfant du siècle » paru en 1836, Alfred de Musset, qui avait 25 ans, exprime ce que tant de romantiques ont éprouvé, le regret de temps héroïques, en l'espèce, ce qu'on a appelé l'épopée napoléonienne. Napoléon, qui avait drogué le pays à la guerre et à l'obéissance, paraissait exaltant à un jeune homme qui s'ennuyait sous Louis-Philippe. Musset a révélé ce sentiment nouveau, la nostalgie de ce qu'on n'a pas vécu. Ses prédécesseurs l'avaient eux aussi éprouvé, quoique pas envers Napoléon. Les premiers romantiques étaient de droite, souvent royalistes, catholiques et vénérant Chateaubriand. Victor Hugo, à ses débuts, en est le prototype. Chez les peintres, Delacroix, à peu près du même âge, est moins religieux et plutôt bonapartiste par origine familiale, mais il n'est pas moins conservateur. Peut-être à cause de mai 68, où les jeunes révoltés étaient de gauche, on croit souvent que les romantiques, tout aussi turbulents et plus créatifs, étaient du même bord. Rien n'est plus faux. Stendhal, plus âgé qu'eux, puisqu'il est de 1783, passait pour un excentrique avec ses idées de gauche et pro-révolutionnaire. Le droitisme des romantiques s'est-il manifesté d'une façon ou d'une autre dans leurs œuvres et dans leurs personnages? C'est un droitisme de première période, à partir de la révolution de 1830, du renvoi des Bourbons et de leur régime pétainiste, je veux dire appuyé sur l'étranger, utilisant les reproches permanents aux Français et prônant la contrition, le romantisme se gauchit. Cela d'autant plus que le relatif libéralisme de Louis-Philippe permet la satire et la caricature. La monarchie de Juillet déçoit vite par sa cupidité et son cynisme, de là sans doute des héros romantiques à la Julien Sorel, cynique envers l'Église et la bourgeoisie. Qui est le héros romantique? Que pense-t-il? Qu'éprouve-t-il? Comment s'habille-t-il? Qu'aime-t-il? Pour en parler, et à l'occasion de l'exposition Paris romantique 1815-1848, je reçois Christophe Leribaud, directeur du musée du Petit Palais à Paris. Christophe Leribaud, votre exposition ouvre sur un frappant tableau des trois vainqueurs de Napoléon entrant à Paris avec des armées étrangères en 1814, et c'est bien un retour de l'ordre ancien car ils portent leur bicorne en colonne, c'est-à-dire perpendiculairement aux épaules, alors que Napoléon le portait en bataille, c'est-à-dire parallèlement aux épaules, comme le faisaient les sous-officiers. Est-ce que le goût romantique revient lui aussi en arrière?
Ah, en arrière tout, c'était un slogan qui a donné lieu à quelques caricatures. En tout cas, on s'intéresse soudain davantage au Moyen-Âge, un Moyen-Âge politique. C'est le retour aux vertus de la monarchie, aux origines des familles royales. C'est une sorte d'échappatoire un peu qui est aussi mêlé de religiosité, bien sûr. C'est ce goût troubadour qui est né sous Joséphine, mais vraiment qui devient très fort et porté comme un étendard par la duchesse de Berry, donc la nouvelle cour de Louis XVIII.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement le style troubadour?
Alors c'est l'application au pendule et au sablier de l'architecture gothique. C'est tout transformé en les costumes, en héros d'armes, les broderies. Enfin, c'est tout un ensemble d'objets de la vie quotidienne ou du décor décliné en papier peint ou presque papier, mais très très joli, très très élégant.
Et vous dites que ça avait commencé sous Joséphine?
Oui, c'est d'abord sous Joséphine, c'est une poésie du Moyen-Âge, mais c'est vraiment effectivement à partir de la Restauration que ce goût se répand.
À Paris.
À Paris, mais aussi à Combourg et ailleurs.
Les héros romantiques sont assez volontiers des martyrs, du moins au début. Chateaubriand avait mis les martyrs à la mode dans un livre de 1809, donc tout avait déjà commencé sous l'Empire, comme vous l'évoquez. Et un de ces martyrs fameux parmi les héros romantiques est Mazeppa, dont un tableau, le représentant, se trouve dans votre exposition. Qu'est-ce que c'est que ce Mazeppa?
Oui, une œuvre de Vernet frappante, mais tirée d'un récit de Byron, publié peu avant, et qui montre la condamnation d'un page polonais qui avait vécu un adultère avec une certaine comtesse Teresa, qui se retrouve ligotée, nue sur un cheval, jetée dans les forêts et poursuivie par les lions, ce qui donne évidemment une fresque assez évocatrice, qui a eu du succès au salon.
Qui était au salon de quelle année ?
En 1826.
Décrivez-le exactement, ce tableau.
On voit cette sorte d'éphèbe ligoté à un magnifique cheval blanc au milieu de la forêt. C'est très évocateur, peut-être même un peu limite si on ne sait pas que c'est inspiré d'une poésie sérieuse.
Est-ce que le tableau a été soupçonné de mauvaise mœurs à l'époque ?
On était tellement loin qu'on ne peut pas soupçonner quoi que ce soit.
Alors, la souffrance du héros romantique se marque par une passion pour le suicide. Goethe avait, comme toujours tout est commencé avant, avait révélé ça avec son personnage de Werther, c'était en 1774. Et ça revient beaucoup sous le romantisme. Vigny, dans la littérature, Vigny fait ça avec le personnage de Chatterton, qui est l'héroïse dans un roman, le poète suicidé. Et c'est un peu l'idéalisme contre l'esprit pratique de la société, cette idée du suicide et du martyr.
En tout cas, c'est une période où on meurt jeune, puisqu'il y a eu la Révolution, il y a eu ensuite toutes les guerres de l'Empire. La Symphonie Fantastique ne se termine pas par un suicide, mais par une exécution. La mort est quand même très, très présente.
Et le goût du suicide se manifeste en peinture aussi ? Enfin, il y a beaucoup de représentations de suicide et de martyr.
Le suicide de Sappho, par exemple, qui a été représenté par le Baron Gros, qui est d'ailleurs un peintre qui s'est lui-même suicidé.
Oui. Vers cette époque-là, d'ailleurs, vers 1826 ou comme ça, je crois. Mais il ne s'est pas suicidé pour les mêmes raisons. Enfin, il ne s'est pas suicidé par goût du suicide, parce que c'était un peintre. Peut-être que tout le monde ne sait pas qui c'est. Dites-nous un peu qui c'est.
Baron Gros était le principal élève de David. C'est lui qui reprend son atelier quand David est contraint à l'exil à Bruxelles. Mais il a du mal à assumer une peinture qui est à la fois très proto-romantisme et puis en même temps il est le parangon du classicisme par sa fonction d'héritier spirituel de David, et l'affaire se termine mal.
Oui, puis je crois qu'on se moquait beaucoup de lui. Enfin, s'il passait pour un vieux schnock académique. Enfin, il a fait d'abord beaucoup de peintures pour l'Empire, évidemment. Et je crois qu'il était assez moqué, non ?
Ah, l'auteur des Pestiférés de Jaffa, qui est parmi les tableaux les plus extraordinaires de la geste napoléonienne, termine en exécutant la coupe Louis XVIII sur la coupole de l'actuel Panthéon de Sainte-Geneviève. Évidemment, il y a une sorte de descente aux enfers.
La martyrologie est un procédé assez typique des Bourbons, qui aiment beaucoup crier aux martyrs depuis la mort de Louis XVI, l'exécution du duc d'Enghien. Et ça a redoublé au début du romantisme avec l'assassinat du duc de Berry en 1820. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ?
Ah, le duc de Berry était le deuxième fils de Charles X, qui a été assassiné à la sortie de l'opéra, alors qu'il raccompagnait son épouse à sa calèche. Heureusement, elle était enceinte, et donc il y eut une naissance et un successeur, le comte de Chambord. De Bordeaux à l'époque.
Alors il faut dire que la martyrologie du duc de Berry est assez cocasse, parce que vous venez de dire qu'il raccompagnait sa femme, mais enfin, dans la salle se trouvait sa maîtresse, avec qui il avait deux enfants illégitimes, que Louis XVIII a titré d'ailleurs par la suite. Donc il y a eu une grande tartufferie là, de la martyrologie du duc de Berry, et l'assassinat a bien servi la famille. Mais du coup, il y a une héroïne qui a surgi de ça, qui est la duchesse de Berry, qui se trouve représentée d'ailleurs dans votre exposition. On voit, elle est une des héroïnes de l'exposition.
Bien sûr, elle était née en Italie, à Naples, une grande figure de la cour de Louis XVIII, qui était en fait guère appréciée, puisque Louis XVIII et toute cette cour étaient arrivés un petit peu sur le suite de la défaite quand même cuisante de l'Empire. Elle est plus jeune, elle est plus vive, elle a plus de goût, et elle s'impose un peu comme un arbitre du goût par non seulement ses tenues, ce qu'on demande à une princesse, mais également dans ses commandes d'œuvres d'art. Elle collectionne la peinture, des très très beaux meubles, et en cela elle est appréciée. Elle crée des fêtes, le quadrille de Marie Stuart, etc. Enfin, elle a une certaine place dans cette cour un peu atone des Tuileries. On n'est plus dans les heures fastueuses de la cour de Napoléon, on n'est pas encore dans celle de Napoléon III. On est vraiment dans cette trentaine d'années romantiques où ce n'est pas véritablement la cour qui donne le ton entre celle de Louis XVIII, Charles X, peu appréciée, et ensuite Louis-Philippe qui voudra être un roi normal, si je puis dire, en costume sombre.
Alors quand Louis XVIII fuit Napoléon de retour d'Elbe, trois jeunes artistes ou futurs artistes suivent à cheval sa suite qui allait vers la Belgique, et c'était chacun dans une compagnie de mousquetaires, c'était Lamartine, Géricault et Alfred de Vigny. Alors, le héros romantique d'eux, ou d'ailleurs des peintres, me semble-t-il, est moins un militaire que quelqu'un qui rêve d'exploit, un peu à la Byron d'ailleurs, qu'un civil qui voudrait devenir héroïque. Il me semble que Lord Byron a fixé ce genre jusqu'à D'Annunzio, Malraux, qui se perpétue encore bien longtemps, non? Il n'y a pas de goût militaire à proprement parler aussi?
Il est difficile d'être absolument militariste en 1815. On ne peut plus exposer au salon d'énormes compositions vantant des grandes victoires, comme en était rempli le salon jusque-là avec les peintures napoléoniennes. Donc il y a quand même quelques événements à relater de la nouvelle monarchie, mais c'est pas tout à fait le cas. On montre plutôt des vétérans, des militaires anonymes. Ou alors on représente quelques généraux quand même des guerres de Vendée, La Roche-Jacquelin ou...
Et est-ce que même au moment de la guerre d'Espagne que Chateaubriand a déclaré quand il était ministre, il faut jamais donner un poste de ministre à un écrivain, il déclare une guerre, est-ce que cette guerre-là, où les Français se sont mal tenus, Stendhal le raconte, n'a pas donné lieu à des peintures héroïques?
Elle donnera lieu à des bas-reliefs sur l'art de triomphe du carrousel, qui est dans la cour du Louvre, qui seront retirés plus tard.
Qui seront retirés quand?
Pour être remplacés par des nouveaux bas-reliefs à sujet napoléonien. Donc je pense que ça a dû avoir lieu sous le Second Empire, mais il faut vérifier. Là.
Vous disiez que dans le romantisme, un passéisme se manifeste par ce goût néo-gothique et Moyen-Âge, dont Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, évidemment, en est un exemple glorieux. Il me semble aussi, et on le voit dans l'exposition Paris romantique, qu'il y a un retour au goût Renaissance avec les Valois, François Ier...
Bien sûr, qui est alimenté aussi par le goût pour Shakespeare et puis les romans de Walter Scott, qui ne se situent pas tous dans l'Écosse médiévale. On redécouvre le Moyen-Âge et la Renaissance tout autant. On redécouvre aussi, on met très en avant la figure de Henri IV et le tout début du XVIIe siècle, parce que c'est le Bourbon le plus présentable, le plus consensuel, qui a apaisé les guerres de religion, qui avait un rapport avec son peuple et même sa famille plus naturel que Louis XIV ou d'autres souverains.
Et puis le romantisme, je le disais dans mon introduction, et votre exposition le montre bien, ce sont deux révolutions, c'est 1830 et 1848. Et 1830, des portes... les héros romantiques vers la gauche. Un tableau mineur m'en paraît le symbole dans votre exposition, c'est les petits patriotes de Jean Rond. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? D'abord, qui est ce peintre? Et qu'est-ce que c'est que ce tableau?
Jean Rond est un peintre qu'on a un peu oublié parce qu'il y a fort peu d'œuvres qui aient subsisté. On montre d'ailleurs les deux plus connus de l'artiste. Il était né au camp de Boulogne, dans l'attente de l'invasion de l'Angleterre, hein, dans un camp napoléonien, parce que son père était cordonnier, il suivait les armées. Il a été brinque-ballé un peu dans une vie un peu aventureuse. Il a passé son enfance prisonnier en Angleterre avec son père. Enfin, pour plein d'épisodes qui font que ce n'était pas tout à fait le même profil que Géricault suivant Louis XVIII dans son premier
exil. Il a pris la peinture où?
Un peu de lui-même. Mais finalement, il peint assez bien, et il devient vraiment une sorte de précurseur de Courbet, premier réalisme, tant par sa technique et aussi par ses sujets. Donc ce tableau du salon 1831, Les Petits Patriotes, représente trois gamins de Paris, quatre même, très dégoulinés, mais avec des fusils, à côté d'une barricade, dans une évocation très... très forte, en même temps un peu mièvre aussi, de la révolution de 1830.
Mais est-ce qu'on peut pas dire que ces quatre gamins, dont le premier, le personnage central, qui est un gamin debout, en haillons, portant un bicorne et qui tient un fusil à la main, ne sont pas les pères ou les prédécesseurs de Gavroche?
On l'a dit de la figure d'enfant qui figure sur le côté de la liberté de la croix, la liberté guidant le peuple, présentée au même salon de 1831, qui est un salon qui était beaucoup plus ouvert que les précédents. Louis-Philippe avait demandé au jury d'accepter par principe toutes les œuvres qui pouvaient glorifier la révolution de 1830. Donc Jean Rond entre par cette brèche avec ce tableau.
Et le tableau appartient à quel musée?
Il est à Caen,
après. Il est à Caen. Nous allons maintenant entendre l'extrait d'une œuvre d'un des musiciens préférés de Paris dans les années 1820, Rossini. Cette œuvre, c'est Otello, créé au Théâtre Italien en 1821, et c'est un extrait de son ouverture qui va suivre, Riccardo Chailly, dirigeant le National Philharmonic Orchestra de Londres. Christophe Le Ribaud, 1830 et l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir font surgir une chose disparue depuis longtemps à Paris et qui signe peut-être la première mort du romantisme et de son esprit de sérieux, qui est la drôlerie. On se moque beaucoup du roi, il autorise des caricatures, on en voit beaucoup dans votre exposition.
La révolution de 1830 avait été suscitée en partie par le musellement de la presse et Louis-Philippe ne peut que l'ouvrir, autoriser... toutes les caricatures possibles, mais il va en récolter pas mal contre lui, aussi bien sûr des républicains furieux de voir cette révolution confisquée finalement par un nouveau roi, que de la part des légitimistes qui sont furieux de voir un Orléans conquérir le pouvoir. Et puis il a pas de chance parce que il y a là une génération incroyable de Daumier, Granville, Traviès qui rivalisent de
férocité,
d'ingéniosité, avec un crayon absolument incroyable, une nouvelle technique, la lithographie, qui permet de reproduire tous ces dessins avec une très belle qualité, bien meilleure que les bois gravés. Et ce sont des caricatures qui peuvent encore nous faire rire. Or, il n'y a rien de plus périssable que les caricatures. Mais là, elles sont tellement fortes, visuellement, qu'elles continuent à nous toucher.
Alors, est-ce que vous voudriez me dire un mot d'un sculpteur qu'on voit, qui n'est pas que sculpteur, mais qui était sculpteur et qu'on voit dans votre exposition, et qui est peut-être, en tout cas pour moi, le seul sculpteur qui me fasse rire, oui, qui fasse rire, qui est Dantan?
Ah, alors Dantan a eu un œuvre sérieux, mais surtout il est resté connu pour toute une série de charges, de caricatures en plâtre qui pouvaient être patinées façon terre cuite ou bronze éventuellement. Et il a caricaturé vraiment toutes les célébrités de l'époque, aussi bien hommes politiques, chanteurs, artistes, musiciens. Et ces plâtres avaient beaucoup de succès. Il avait sa boutique, en quelque sorte, s'appelait le musée Dantan, qui était au Square d'Orléans, dans cette nouvelle Athènes, le quartier le plus à la mode pour ce quartier de Georges Sand, de Chopin.
C'est-à-dire dans le 9e arrondissement
actuel. Et il a décliné comme ça tout ce monde romantique avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et sur le socle, il ne mettait jamais le nom de la personne, mais c'est un rébus. Ce qui rendait l'ensemble d'autant plus amusant, mais ce qui a provoqué aussi la rareté quelques générations après de ces statuettes de plâtre qui devaient être tirées en assez nombreux exemplaires, j'imagine. Mais un peu plus tard, qu'on retrouve ça dans un héritage sur une étagère, on ne sait plus qui c'est et ça disparaît.
Christophe Le Ribaud, on pourrait dire que le héros romantique est passé de la couronne à la cocarde. Et à ce sujet, comment s'habille-t-il? Il y a des vitrines à ce sujet dans votre exposition. Comment s'habille le héros romantique?
En tout cas, l'écrivain romantique peut être un dandy. C'est le cas, bien sûr, de Balzac, qui a laissé beaucoup de factures impayées. On en voit des bretelles brodées. On y voit une de ses cannes. Il était très très connu pour ses cannes un peu exagérées, en tout cas fort coûteuses. Et même Eugène Sue a d'abord commencé sa carrière, si je puis dire, comme dandy en épuisant les revenus d'un héritage qu'il avait reçu. Puis ensuite, il a dû se mettre à rédiger des feuilletons.
Et il est devenu socialiste.
Et des romans à succès. Et puis, il s'est pris effectivement au jeu des mystères de Paris et il a fini socialiste après avoir commencé comme pur dépensier au Palais Royal dans les boutiques de luxe.
Et donc, la mode est un peu extravagante. On voit une redingote grise avec un très haut col,
Alors la mode par principe est toujours extravagante dans certains coins de Paris et puis après elle est déclinée de manière de plus en plus sérieuse ailleurs. Effectivement, la mode féminine aussi se distingue par des manches un peu disproportionnées, manches dites gigots, des coiffures assez extravagantes. Là c'est vraiment une question de génération, d'âge et de revenus.
Et quel type de mobilier a le héros romantique chez lui? Quel type de mobilier et d'objets de décoration?
Alors, si c'est un héros buveur d'eau, comme dans les scènes de la vie de Bohème, son mobilier est composé d'un grabat, d'une planche pour écrire et pas grand-chose d'autre. Et s'il est, au contraire, un écrivain arrivé, comme Victor Hugo, il peut se meubler de façon plus luxueuse, avec des meubles néo-gothiques, voire même, comme Hugo plus tard, les fabriquer lui-même à son idée.
Donc c'est quel type de bois? Ça veut dire on utilise des bois sombres, on fait des cathèdres, c'est un mobilier lourd.
Alors sous Charles X, on redécouvre les bois clairs, notamment de citronnier, qui suscite une mode pendant quelques années, assez frappante parce qu'aussi on développe beaucoup le cristal, l'opaline avec des couleurs très très vives, des bleus, des roses, des verts acides.
Et le héros romantique, vous avez évoqué rapidement la mode féminine, le héros romantique est rarement une héroïne. S'il y en a, c'est essentiellement à l'opéra, et alors là, c'est un rachis parmentier de femmes battues, malheureuses, suicidées.
On se souvient bien sûr de Marie Duplessis, de la Dame aux Camélias, future Traviata, évidemment, mais elle a un grand cœur.
Et comment expliquez-vous que, alors que la Duchesse de Berry, dont nous avons parlé dans la première partie, est devenue, elle, une héroïne pour d'autres raisons, après, parce qu'elle a fait de la politique, c'était aussi une emmerderesse, et elle a voulu lever des troupes, etc., etc. Comment est-ce que les femmes ne se sont pas plus libérées au moment du romantisme? Il y a quelqu'on voit Delphine de Girardin dans votre exposition, qui était une grande journaliste et un auteur connu, mais en matière de héros et d'héroïnes et de personnages, il y en a assez peu, sinon souffrant.
En tout cas, on a des grandes écrivaines de George Sand à Daniel Stern, Marie Dagout. On a quand même là vraiment des figures féminines.
Oui, mais c'est pas le niveau de gloire des écrivains. Et puis George Sand était un peu traité par-dessous la jambe.
Je pense qu'elle avait beaucoup de succès, beaucoup d'influence. Marie Dagout aussi. Ce sont vraiment des figures féminines très tout à fait notables. Et il y a aussi des
chez les personnages. Chez les personnages. Est-ce que dans la peinture, on ne se contente pas de... Est-ce qu'il y a d'abord beaucoup de sujets de personnages féminins dans la peinture? Pas tellement. Dans votre exposition, on n'en voit pas beaucoup.
Ah, il y a des portraits éblouissants de Maria Malibran, de Rachel.
Oui, des portraits. Mais par exemple, on voit Mazeppa, on voit des cavaliers, on voit des petits patriotes, mais on ne voit pas des petites patriotesses, par exemple.
Et Sainte-Thérèse de Lisieux, ça compte pour rien. C'est un merveilleux tableau du baron Gérard, peint pour Madame de Chateaubriand, qu'on oublie, mais qui fondait une institution et demande
au baron Gérard. C'est l'extrême gauche, tout ça. Oui, donc en fait, la femme est un instrument de piété sous le romantisme.
Il y a aussi Christine de Suède, quand même, est une héroïne historique souvent traitée. Christine de Suède dans la tempête, Christine de Suède faisant assassiner son amant. Non, c'est... Il y a quelques femmes fortes.
Et dans quel quartier de Paris vit et sort le héros romantique? Ou l'héroïne?
Alors, on est plutôt sur la rive droite dans cette période. Bon, un petit peu le quartier latin pour
les étudiants.
La bohème, les étudiants. Mais sinon, on fréquente, comme tout le monde, le Palais Royal, qui est le haut lieu de la mode. Ensuite, on peut, le soir, être invité dans les salons de la Chaussée d'Antin, des grands banquiers, collectionneurs. Et sinon, on habite entre la rue des Martyrs et le haut du 9e arrondissement.
Et puis, il y a une chose qu'on voit beaucoup et où sortent les héros romantiques, ce sont les bals. On le voit bien dans l'exposition.
Alors il y a les balles des barrières, les balles plus populaires, la grande chaumière, il y a différents lieux comme ça où on peut où on retrouve des grisettes, où on retrouve Mimi Pinson et autres héroïnes, et puis le bal de l'opéra, notamment les bals masqués, très très souvent représentés soit en peinture, en gravure de Gavarni ou en littérature, mais aussi les grands bals des Tuileries.
Et à ce sujet, le héros romantique écoute de la musique. Une caricature de Delacroix qui n'est pas dans votre exposition montre Rossini soutenant à lui seul tout l'opéra italien. Et Rossini était un héros de la musique. Il est arrivé à Paris en 23 et il a d'ailleurs composé la musique du Sacre de Charles X. Quel type de musique accompagne les héros romantiques?
Alors Rossini à Paris compose quasiment plus, mais il est relayé par d'autres compositeurs italiens, qu'il s'agit de Donizetti ou même de Bellini, qui meurt à Puteaux, ce qui paraît toujours un peu invraisemblable quand on connaît l'architecture de la Défense de nos jours. Alors le héros romantique peut écouter aussi du Mozart, hein. C'est le moment où on redonne Don Juan, les Noces de Figaro, il peut aussi s'intéresser à un répertoire plus ancien, et le héros romantique par excellence musicalement, c'est bien sûr Berlioz, un symphonie fantastique, et puis la suite, l'Hélio.
Les héros romantiques s'intéressent aux autres, et ça c'est assez nouveau. On s'intéresse à l'étranger, nous l'avons dit dans la première partie de l'émission, il y a Byron et évidemment avec les révoltes grecques, mais l'Italie et l'Espagne sont aussi là, et tout d'un coup, alors que le romantisme pourrait avoir l'air d'une chose presque de loge de concierge parisienne, pas du tout, on s'intéresse à l'étranger, il y a par exemple un tableau montrant Alexandre Dumas à cheval dans son voyage en Espagne, et ça c'est assez nouveau, non?
Ben, l'étranger est en tout cas très très présent à Paris, puisqu'il y a une communauté vraiment très internationale, très européenne, des réfugiés polonais, beaucoup d'Italiens, mais aussi Heinrich Heine, et vraiment des artistes, écrivains, peintres venant de partout, qui profitent d'une certaine liberté qui est contrainte, hein, on connaît toutes les questions de censure, mais qui est certainement plus il y a plus de choses possibles quand même à Paris peut-être qu'à Vienne ou bien sûr à Saint-Pétersbourg.
Alors avec les romantiques, pour finir, un nouveau type de personnage apparaît à mon avis et qui n'existait probablement pas auparavant, c'est l'artiste. L'artiste devient un personnage et je me demande si ça ne veut pas dire que l'art réfléchit de plus en plus à sa condition au lieu de simplement divertir.
On passe de l'artiste qui reçoit des commandes officielles pour exécuter des plafonds dans des grands châteaux à l'artiste qui doit conquérir son public sans jamais aucune concession, qui doit être un peu incompris au début, susciter des scandales au salon, ensuite dans la pratique il décline ensuite ses tableaux, ses sculptures en bibelots et en petit format, mais enfin ça on le dit moins, il y a toute une mythologie de l'artiste, de la mansarde jusqu'au grand triomphe.
Christophe Leribaud, que vous ont appris les personnages de héros romantiques?
Ce sont des personnages toujours doubles, complexes, que l'on peut aimer et par moments qui sont très irritants. En tout cas, ce sont des personnages fascinants qui méritent d'être connus à la lecture.
C'était Personnage en personne, le 85e. Je vous retrouverai début septembre pour une nouvelle saison de l'émission, qui n'est possible que grâce à l'efficacité qui n'est jamais prise en faute depuis 2 ans de notre réalisatrice Clotilde Pivin, que je remercie et salue ici, à la recherche et à la documentation. Mon second est cette année, Daphné Abgral, Chouchane Jargaillan et Pascaline Bonnet.
Comme si j'étais assis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet. Paradis. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
De l'autre côté de ma vie, le paradis acquis. C'était un grand jeudi. Tous les jours paradis. De l'autre côté.